les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Né en 1921 à Alger, mort à Vannes en mars 2018, Jacques Gernet fut l'un des plus grands sinologues français. Initié après-guerre aux études chinoises à l'École des langues orientales, il fut titulaire de la première chaire de chinois à la Sorbonne et de 1975 à 1992 de celle d'histoire intellectuelle et sociale de la Chine au Collège de France. En 1972, il publiait « Le monde chinois », grande et brillante synthèse consacrée à l'histoire du pays depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Il fut à cette occasion l'invité de Jacques Le Goff dans les Lundis de l'Histoire et s'y employa à tordre le cou à quelques idées reçues et tenaces sur l'histoire de ce pays continent, si mal connu dans nos contrées occidentales. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 juillet 1972.
Notre émission est consacrée ce matin à un très beau livre. Très beau dans au moins deux sens du mot. D'abord parce que, extérieurement, c'est un ouvrage d'une excellente présentation, avec de belles illustrations, et des illustrations qui ne forment pas hors d'œuvre, mais qui sont véritablement liées au texte. Beau aussi parce que, sur un énorme problème, on en jugera dans un instant, l'auteur, Jacques Gernet, a su donner une synthèse absolument magistrale de cet énorme sujet qu'est le monde chinois, c'est le titre de l'ouvrage, paru dans la collection Destin du monde que dirige Fernand Braudel aux éditions Armand Collin. Notre débat réunit ce matin autour du micro des Lundis de l'Histoire, l'auteur, Jacques Gernet, professeur à l'Université de Paris 7 et à l'École pratique des hautes études, Michel Cartier, maître assistant à l'École des hautes études, et Denis Lombard, directeur d'études à l'École des hautes études. Puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Denis Lombard, qui bien entendu est un bon connaisseur de l'histoire de Chine, il a vécu en Chine, et de ses connaissances sur la Chine est né un excellent petit livre de la collection Que sais-je, La Chine impériale, qui fait d'ailleurs chronologiquement suite à un autre Que sais-je de Jacques Gernet sur la Chine ancienne, puisque donc Denis Lombard est avec nous et que, bien que bon connaisseur de la Chine, il est surtout un spécialiste de l'histoire de l'Indonésie. Je vais lui demander, en levée de rideau de notre débat, de présenter en quelques phrases à nos auditeurs une nouvelle revue dont il est un des co-directeurs revue consacrée à l'histoire du monde insulindien, revue intitulée Archipel. Denis Lombard, qu'est-ce qu'Archipel? Pourquoi ce titre? Quelle est l'ère culturelle de cette revue? Et qu'avez-vous voulu faire, vous et votre équipe, avec cette revue?
Eh bien, l'Indonésie, l'insulinde, qui correspond à ce qu'on appelle aussi en France le monde malais, est un monde immense. L'Indonésie, en tant qu'État, comporte 120 millions d'habitants. C'est le plus grand pays d'Asie du Sud-Est, le plus grand pays du monde musulman, qui a aussi des rapports avec la Malaisie, notre État d'Asie du Sud-Est, avec les Philippines, dont la langue est apparentée à celle de Madagascar, qui représente donc un ensemble immense, un ensemble insulaire, d'où le nom de notre revue Archipel, qui en France est fort peu connu. Fort peu connu, je dois dire, depuis quelques années ou quelques décennies, étant donné qu'au début du 19e siècle, beaucoup de Français s'y étaient rendus, avaient écrit des récits de voyage et même des prospections économiques, scientifiques dans ces régions. Et puis après, avec la rupture coloniale, l'installation des limites coloniales en Asie du Sud-Est, l'insulinde est devenue le domaine des Hollandais, les Indes néerlandaises, et les Français se sont beaucoup plus intéressés davantage au monde indochinois, à la péninsule indochinoise. Ce monde immense représente actuellement pose une série de problèmes très importants, et avec deux collègues, Christian Pelleras et Pierre Labrousse, Christian Pelleras est au CNRS et Pierre Labrousse est professeur de français à Bandung, il est donc sur place même en Indonésie, nous avons décidé de lancer une revue dont les limites seront non pas méthodologiques, comme actuellement on envisage surtout ou principalement d'organiser les revues, revues de linguistique, revues d'histoire, revues de sociologie, mais au contraire une revue où les limites seraient géographiques, essentiellement l'Indonésie avec éventuellement les autres îles comme Madagascar et les Philippines, et nous essayons de les envisager sous tous leurs aspects, aussi bien politiques actuelles que historiques évidemment, qu'ethnologiques, que linguistiques.
Oui, je crois que cette formule, qui est celle du regroupement des problèmes autour d'une unité, qui est celle de la géographie, comme vous l'avez dit, d'une ère culturelle, représente, aussi bien scientifiquement que par rapport au désir du public cultivé et du grand public, quelque chose qui reste extrêmement valable, comme on dit, extrêmement important. Je vous remercie de cette présentation. Il a paru, je crois, deux numéros d'Archipel.
Le troisième est sous presse en Indonésie.
J'indique donc, comme il s'agit malgré tout d'une revue qu'on ne trouve sans doute pas très facilement, j'indique aux auditeurs de France Culture qu'on peut obtenir tout renseignement concernant cette revue à la rédaction Archipel Cedrasemi, C-E-D-R-A-S-E-M-I, sigle qui désigne le Centre de Documentation et de Recherche sur l'Asie du Sud-Est et le monde indonésien. Je pense que Archipel suffit en fait. Oui. Archipel donc, 6 rue de Tournon, Paris 6e. Vous me permettez de répéter, Archipel, 6 rue de Tournon, Paris 6e. Et maintenant, si vous le voulez, glissons un petit peu du monde insulindien vers cet énorme espace et cette énorme durée à laquelle Jacques Gernet n'a pas craint de s'attaquer, me semble-t-il, avec un plein succès dans cet ouvrage « Le monde chinois ». Un ouvrage qui n'est pas seulement un ouvrage de synthèse, un ouvrage qui me semble très original dans ses conceptions et qui, par-delà la présentation et un essai d'explication de ce monde chinois, une réflexion et une réflexion mise en pratique sur l'histoire. Aussi, la première chose que je demanderai à Jacques Gernet, c'est de nous dire quelles sont ses conceptions, qu'est-ce qui a présidé à la conception et à l'écriture de cet ouvrage. Jacques Gernet.
Eh bien, il y a un premier point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que dans la rédaction d'un ouvrage comme celui-là, on est déterminé à l'avance par les exigences de l'éditeur et les exigences du public. Lesquelles exigences de l'éditeur et du public sont déterminées elles-mêmes par la conception que l'on se fait de la Chine communément. La Chine, communément, on pense que c'est un problème assez simple. Pourquoi est-ce que c'est simple? Parce que c'est loin. parce qu'on a entendu dire très souvent que c'est un pays où il ne s'est rien passé, où l'histoire a été dormante, un pays stagnant qui est resté toujours fidèle à des traditions immuables. Et puis d'autre part, il y a un autre aspect du problème qui fait que on pense que les choses n'ont pas tellement d'importance, c'est que, suivant une conception sur laquelle nous reviendrons, j'espère, en fin d'émission, une conception qui est très répandue, n'est-ce pas, il y a la Chine moderne, la Chine contemporaine, et puis il y a toute la Chine du passé, cette Chine du passé n'ayant aucun point de contact avec notre propre histoire, avec le reste du monde, alors qu'au contraire, la Chine contemporaine est parfaitement intégrée à l'histoire mondiale, puisque les Occidentaux ont pénétré en Extrême-Orient depuis plus d'un demi-siècle, plus d'un siècle et demi. Vous voyez par conséquent que, au départ, quelqu'un qui veut écrire un ouvrage sur la Chine se trouve déterminé par une attitude générale du grand public et des éditeurs, cela va de soi, qui répond à des clichés traditionnels, des clichés admis. Or, il se trouve malheureusement que on a affaire à un très vaste sujet, très complexe, qui est très étendu non seulement dans l'espace mais dans le temps, et à un public, d'autre part, qui ignore tout, non seulement de la Chine, qui est déjà un énorme morceau, mais de l'Asie orientale dans son ensemble, et particulièrement de l'Asie du Sud-Est, qui fait partie de cet ensemble, Asie orientale dont la Chine est absolument inséparable et incompréhensible sans ses confins mongols, sans le Japon, sans la Corée, sans le Vietnam, sans le Tibet, sans l'Asie du Sud-Est, sans l'Inde et sans le Moyen-Orient et le Proche-Orient.
Oui, et une des premières choses justement que vous avez voulu présenter, c'est l'espace chinois.
Oui. C'est l'espace chinois. Il y a une chose dont on ne se rend pas compte, c'est que le monde chinois au sens large, d'abord, dépasse les limites de la Chine proprement dite comme unité politique. Si on considère la Chine d'aujourd'hui, la République populaire de Chine, il faut compter aussi la République chinoise de Taïwan, mais aussi toutes les communautés chinoises de l'Asie du Sud-Est, qui sont relativement importantes, puisqu'elles s'élèvent à 12 millions environ d'habitants. Il y a une chose, par exemple, qu'on ne voit pas, c'est que la distance qui sépare Singapour, qui est une ville à 80% chinoise ou 75% chinoise, qui sépare Singapour de la province la plus septentrionale du nord, de la province la plus septentrionale de la Chine, de la République populaire, c'est-à-dire celle de l'amour, la distance qui sépare Singapour de la vallée de l'amour est de 7000 km environ, c'est-à-dire une distance égale à celle qui sépare Dublin des frontières occidentales de la Chine. Ça, c'est une chose qu'il est difficile de réaliser quand on n'a pas mis le doigt dessus.
Oui, nous sommes en face d'un problème de dimension inaccoutumée.
De dimension inaccoutumée, mais aussi de variété, de différence, de singularités multiples, et l'Asie orientale, c'est pratiquement aussi complexe que l'Europe. Il y a des populations très différentes, des cultures très différentes, des langues très différentes. Et pour prendre le cas de la Chine, par exemple, on distingue en Chine des dialectes. Or, ces dialectes ne sont pas à proprement parler des dialectes tels que nous les entendons, par exemple, pour telle langue mère d'Europe. Mais ce sont des groupes de langues, en réalité, des groupes de dialectes. Parce qu'on parle, par exemple, du cantonais. Le cantonais est une langue qui est si profondément différente du pékinois qu'un pékinois et un cantonais ne peuvent absolument pas se comprendre, pas plus qu'un italien et un anglais ne peuvent se comprendre. Mais à l'intérieur de ce dialecte cantonais, on trouve quatre groupes différents de cantonais, ce qui prouve par conséquent la complexité des pays chinois qui ont été en contact au cours de l'histoire avec des cultures extrêmement différentes, variées. Par exemple, les cantonais ouverts sur la mer, sur l'Asie du Sud-Est, sur l'Inde, alors, et puis ensuite sur l'Europe, Alors, par exemple, au contraire, que des provinces du nord-ouest chinois sont en contact avec le monde musulman, avec le monde bouddhisé indien, avec les gens de la steppe, etc.
Oui, c'est à la fois une différence de culture historique et de genre de vie. Vous oui. avez aussi rappelé les oppositions nomades sédentaires, le rôle marginal mais important des montagnards.
Oui, je pense que c'est absolument fondamental pour arriver à comprendre l'histoire de la civilisation chinoise, bien se dire au départ que cette civilisation a été une création perpétuelle parce que la Chine a été, tout au cours de son histoire, en contact avec des populations différentes.
Eh bien, malgré toute cette diversité, il y a quand même une unité, puisque la Chine, ça a existé,
oui.
et ça existe. Et je vais me permettre de vous poser, messieurs, une première question. Les Chinois eux-mêmes, comment se désignent-ils officiellement? Nous, nous disons la Chine, si nous voulons préciser par rapport au régime politique, nous disons la Chine impériale ou l'Empire chinois, nous disons la République populaire de Chine, mais eux, comment s'appellent-ils?
Bien, notre terme chinois est assez ambigu dans la mesure où justement il recouvre deux termes chinois que les Chinois distinguent eux-mêmes très bien. Le premier est Chongguozhen qui désigne le Chinois, c'est-à-dire l'habitant de la Chine en tant qu'entité politique, celui qui a son passeport chinois, si on peut dire. Et d'autre part, le Hanzhen, celui qui est de l'ethnie, le Han, on trouve aussi ce terme dans certains ouvrages de sinologie. Le Han, c'est-à-dire celui qui est de l'ethnie dominante, l'ethnie principale qui a, en quelque sorte, unifié l'Empire chinois. Il y a deux termes chinois pour un seul mot en français, chinois.
Qui
pose évidemment certaines difficultés des fois.
Mais qui est déjà un éclairage sur les réalités chinoises. Jacques Vernet, par-delà cette conception de l'immensité de la diversité chinoise, quelles idées ont encore présidé à ce livre ?
Je voudrais ajouter aussi que j'ai opté pour le titre « Le monde chinois » plutôt que « Histoire de la Chine et de la civilisation chinoise » parce que ce qui m'intéressait au fond, c'était les populations Han, c'est-à-dire chinoises au sens strict du mot et non pas chinoises au sens de la nationalité, car à ce moment-là, même un Tibétain est un Chinois ou un Mongol, peut être Chinois. Si je me suis donc intéressé spécialement aux populations, c'est que il m'a semblé que c'était là en réalité le véritable problème. Parce que les populations chinoises qui sont porteurs d'une culture particulière qui a évolué au cours du temps, se sont diffusées dans l'ensemble de l'Asie centrale et même jusqu'au Proche-Orient et en Russie, à certaines époques. Et il m'a semblé que c'était là le problème important, beaucoup plus que l'histoire des régimes politiques. L'histoire des régimes politiques qui ont occupé des espaces variables au cours de l'histoire, alors que les populations proprement chinoises débordaient le cadre politique proprement dit.
Bien entendu, il y a dans votre ouvrage des points de repère suffisants sur l'histoire dite événementielle et en particulier sur la périodisation d'un point de vue politique. Je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir, mais précisément pour le présenter sous un autre angle, plus près de vos propres conceptions. Je voudrais demander à Denis Lombard, Michel Cartier, si cette conception de Jacques Vernet leur paraît précisément apte à bien mettre en valeur l'originalité, l'importance de l'histoire chinoise. Michel Cartier.
Je crois qu'on peut peut-être un peu revenir sur la distinction qui a été faite il y a quelques instants. Les deux exceptions, les deux termes qui en Chine servent à désigner ce que nous traduisons par chinois.
Oui.
Je crois qu'il est important aussi de souligner que quand les Chinois n'opposent pas tellement le terme du point de vue ethnique, mais que pour eux, l'appartenance à la nation Han est plutôt considérée comme une appartenance culturelle. Et c'est dans cette mesure, je crois que M. Vernet a raison de laisser un peu dans à l'arrière-plan les régimes politiques ou les divisions nées de l'histoire politique, c'est que derrière la diversité des régimes, la complexité de l'évolution politique, il y a évidemment la permanence d'une culture Han qui s'identifie pas tellement à la langue, puisque nous avons vu que les Chinois qui se désignent comme Han parlent en réalité des langues différentes, mais par un certain nombre de valeurs culturelles, l'écriture, une certaine conception de la vie communautaire, de la vie familiale, aussi une certaine conception, une certaine forme de culture sédentaire, agricole.
Jacques Gernet, vous avez dit tout à l'heure que parmi les mythes, les clichés, les fausses idées sur la Chine et son histoire, il y avait justement l'idée d'un monde presque immobile, d'un monde presque sans histoire. Et est-ce que vous avez spécialement cherché à combattre cette idée dans votre ouvrage et comment ?
Eh bien, j'ai cherché à la combattre en examinant l'ensemble des problèmes qui se posaient dans l'évolution de la Chine, c'est-à-dire les problèmes de démographie, les problèmes d'économie, les problèmes de technique, et j'ai voulu montrer en somme qu'il y avait derrière un vocabulaire qui était un peu trop uniforme, celui d'empire, à partir de l'unification impériale ou de la révolution étatique, comme je dirais plus tôt, qui se situe à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, sous le terme d'empire, il y avait eu une évolution absolument comparable à celle de l'Europe, extrêmement importante. Et d'ailleurs, je pense que cette évolution, sur laquelle il y aurait encore beaucoup à faire, il faudrait l'éclairer beaucoup mieux. Je pense que cette évolution, on peut imaginer a priori qu'elle est absolument inévitable. Elle est absolument inévitable parce que tout système politique est lié à des transformations de l'économie, des techniques, de la démographie, de l'organisation sociale, de l'histoire intellectuelle.
Denis Lombard,
je voudrais revenir sur le parallélisme que M. Gernet avait fait tout à l'heure entre l'empire justement de Chine et la possibilité de faire une comparaison avec l'empire occidental. En effet, je crois que la chose est tout à fait juste. Il y a eu aussi un empire en Occident qui s'est formé d'ailleurs à peu près à la même période, l'empire romain, et qui est venu mourir à peu près à la même période aussi, au moment de la Première Guerre mondiale, disons cette année exactement, 1918, après la fin justement de l'empire chinois, la révolution de Sun Yat-sen en 1911. Or, entre ces deux histoires, entre ces deux empires, il y a aussi au fond un parallélisme possible, dans la mesure où l'empire chinois n'a pas été monolithique et permanent. Il y a eu un moment où il y a eu plusieurs empires contestataires et opposés. Il y a eu des moments où il y a eu même des carences d'empire, exactement comme en Occident. L'empire s'est déplacé d'abord à Byzance, ensuite en Allemagne, ensuite en Russie.
Oui, c'est une des séductions du livre de Jacques Gernet, une de celles, me semble-t-il, qui font le plus réfléchir, non seulement le lecteur, mais je dirais même le professionnel, l'historien, c'est cette évocation de l'histoire non chinoise et de ses parallélismes, de ses rapports. Je le lui ai confié dans une première lecture. J'avais été relativement étonné de voir que dans ce livre où est affirmé avec force l'idée qu'il ne faut précisément pas voir l'histoire chinoise avec les concepts et les yeux de la mentalité et de l'histoire occidentale, plusieurs périodes étaient désignées par des termes qui désignent traditionnellement l'histoire occidentale. Vous parlez de Moyen-Âge, et j'en ai été personnellement ravi, vous parlez de Renaissance, vous parlez des Lumières. Et je crois que, précisément, votre idée, n'est-ce pas, c'est de montrer que, à travers ces originalités, il y a des correspondance entre les civilisations, qu'il y a des parallélismes, mais que, si je ne m'abuse, ceci ne provient pas d'une harmonie préétablie. Ça va plus loin, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, de même qu'il y a un âge du bronze en Europe, il y a un âge du bronze en Chine, et ces âges du bronze ont des analogies assez remarquables, avec en même temps des caractères spécifiques qui les distinguent très nettement. De même, je pense que entre la période de triomphe du bouddhisme grande religion écuménique de toute l'Asie et en Chine, et la période où le christianisme triomphe en Europe au Moyen Âge, il y a des analogies absolument frappantes et remarquables, tout en maintenant l'idée de ces caractères spécifiques. Cela n'est pas du tout contradictoire.
On peut ajouter les grandes invasions aussi.
On peut ajouter les grandes invasions et la période mongole. Et je suis persuadé, pour ma part, que l'homme chinois, par exemple, du XXe siècle, est véritablement le contemporain de l'occidental du XXe siècle, de même que le chinois du XVIe siècle est un contemporain véritable de l'européen du XVIe siècle.
Maintenant, si je pense à ce qui apparaît plutôt comme quelques différences à travers ces parallélismes, je songe par exemple à l'importance à peu près constante, me semble-t-il, en particulier à partir du moment où est fondé ce que l'on appelle traditionnellement l'ère impériale, en 221 avant l'ère chrétienne, si je ne m'abuse, il y a une sorte de permanence de la force de l'État, aussi bien dans les institutions et dans les esprits, à travers, bien entendu, des vicissitudes politiques qui mettent cet État largement en danger à de nombreuses reprises et qui le divisent. Est-ce qu'il n'y a quand même pas là un trait assez original? De même, me semble-t-il, et corrélativement à cette originalité, et vous le soulignez, il est difficile de parler de féodalité, d'abord parce qu'il ne faut pas abuser de certaines étiquettes, et d'autre part parce que ce qui correspond à la féodalité en Chine, c'est malgré tout autre chose. Et vraisemblablement, une des raisons de cette différence est cette présence constante d'un État, d'une idée d'État, de certaines forces de centralisation dont la féodalité a été, peut-être dans une vue un peu superficielle, mais malgré tout, qui reste en grande partie vraie, la négation dans l'histoire occidentale. Est-ce que véritablement cette idée d'État est très centrale?
Écoutez, je crois en effet qu'elle est centrale. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de me faire une représentation de l'histoire de l'Occident. Ça m'est bien indispensable. Sûr. Et pour moi, il y a deux formes sociales qui ont été déterminantes dans la transformation et l'évolution de l'Occident. C'est d'abord l'apparition de la cité grecque, la cité, et ensuite la ville commerçante et l'apparition et le développement de la classe mercantile. Eh bien, je crois que dans le monde chinois, il y a un phénomène analogue à la cité grecque qui a eu une importance aussi considérable, aussi déterminante sur le destin général du monde chinois. C'est l'apparition de l'État centralisé, je dirais la révolution étatique, je tiens beaucoup à ce mot, cette révolution étatique qui met fin à toute une ancienne Chine qui était quelque chose de vraiment très différent de ce qui va suivre et qui est l'État centralisé qui apparaît en 221 avant Jésus-Christ, enfin à la fin du 3e siècle, qui se forme au cours du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ.
Mais qui est l'aboutissement d'un
qui est l'aboutissement de toute une évolution.
Au 7e ou 6e bien siècle
sûr,
avant Jésus-Christ,
bien sûr.
Déjà ancien.
Mais je crois que ça a été là un modèle qui a été absolument déterminant. Et c'est précisément l'existence de ce modèle qui explique pourquoi certains des problèmes de l'histoire occidentale qui sont propres à cette histoire très singulière qui est celle de l'Occident ne se posent pas en Chine ou ne se posent pas du tout de la même façon. C'est ainsi qu'à mon point de vue, le problème de la ville, le problème de la vie urbaine, mais de la vie urbaine en tant qu'organisme autonome et indépendant, obtenant ses franchises et ayant une fonction dynamique dans le développement de l'Occident moderne, ce problème ne se pose pas en Chine de la même façon du tout.
Oui, nous avions déjà abordé ce problème il y a quelque temps au Lundi de l'Histoire à propos du livre Hélas posthume d'Étienne Balache, La bureaucratie céleste, et il y a certainement un thème très important. Pourtant, le modèle urbain chinois est différent du modèle occidental. De même, puisqu'il n'y a pas, à l'intérieur d'une ville autonome, ce phénomène de franchise urbaine, il n'y a pas de classe sociale liée à cette évolution. Et pourtant, il y a aussi une bourgeoisie chinoise.
Il y a des commerçants, bien sûr.
Voilà, oui. Il y a des commerçants. Alors là, comment vous les définiriez par rapport aux commerçants, à la bourgeoisie à laquelle nous sommes habitués dans l'histoire occidentale? Denis Lombard.
Peut-être une... une opposition à marquer entre justement la classe mandarine, ce qu'on appelle les mandarins, la bureaucratie, qui représentent, qui sont justement les émanations du pouvoir impérial, du pouvoir central, une espèce d'opposition constante entre ces classes et les classes de commerçants, qui ont quand même, je crois, au cours des âges, et surtout peut-être dans la Chine du Sud, il y a une différence régionale à faire entre la Chine du Nord et la Chine du Sud. Dans la Chine du Sud, certainement, en contact justement avec la mer, avec les communautés indépendantes des mers du Sud, les communautés chinoises d'outre-mer, ces communautés marchandes, ces classes marchandes, ces classes de commerçants ont résisté, je crois, même jusqu'à une époque assez récente, à l'emprise des mandarins du Nord, des mandarins impériaux. On peut voir un peu dans la révolution de Sun Yat-sen un peu cette chose-là. C'est évidemment les républicains contre les impériaux, les chinois contre les manchous, mais c'est aussi les communautés maritimes contre justement une certaine forme d'autocratisme septentrional, je pense.
Martin, c'est-à-dire que dans les prolongements les plus actuels de l'histoire de la Chine, on retrouve certaines directions forces, n'est-ce pas? Le régime de Chiang Kai-shek étant à la fois un régime autoritaire et dictatorial et centralisateur, mais qui s'appuie en même temps sur une puissante bourgeoisie des villes, spécialement de Shanghai, et au contraire, le régime communiste étant beaucoup plus dans la tradition étatique rurale traditionnelle.
J'aurais envie, avant de clore la première partie de notre débat, de vous poser encore deux questions, messieurs. Et la première, c'est sur le rôle de l'écriture dans ce monde chinois. Jacques Gernet, vous y insistez beaucoup dans votre livre. Oui, ça a l'air majeur, et j'ai été en particulier très frappé, là encore, de la distinction que vous faites entre ce qui s'est passé dans l'histoire d'Occident, où le plus souvent on a l'impression que l'on a affaire à des civilisations de la parole. Je crois d'ailleurs qu'à propos de la Grèce ancienne, c'était le terme employé par notre collègue et ami Pierre Vidal-Naquet dans le très beau chapitre qu'il lui a consacré dans l'Encyclopédia Universalis. Et bien entendu, le monde grec, le monde romain, l'importance de la rhétorique, et qui s'est conservée de nos jours, même en dehors de l'ère latine. En revanche, dans le monde chinois, une sorte de primat de l'écriture dans les moyens de communication, de culture et de pouvoir.
Il n'y a absolument aucun doute, et c'est là un des grands faits, si vous voulez, un de ces grands traits qui marquent un monde, qui marquent un caractère original d'un ensemble de civilisations, parce que je crois que le problème, il n'est pas seulement chinois, il est japonais, il est vietnamien, il est coréen. Et une des choses qui a fait l'unité de civilisation de tout cet ensemble qui aujourd'hui représente plus d'un milliard d'hommes, il ne faut pas oublier que l'Asie orientale, dans son ensemble, ça fait le tiers de l'humanité. Eh bien, dans cet ensemble-là, c'est l'écriture comme moyen de communication, non pas le langage parlé, mais l'écriture comme moyen de communication qui a servi de trait d'union. De même que l'écriture en Chine, à partir du moment où sa norme a été fixée par l'Empire à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, cette écriture chinoise a été le moyen d'unification administrative et politique.
Ma dernière question sera celle-là. Votre ouvrage, je crois, est l'illustration justement de l'histoire comparée au meilleur et au plus sens le plus profond du mot. Vous avez insisté il y a un instant sur la révolution étatique. À l'intérieur de cette révolution et de cette originalité chinoise, une institution que l'on retrouve ailleurs, qui est la monarchie, est-ce qu'elle a des caractères originaux dans l'histoire chinoise, ou bien est-ce qu'elle est comparable à ce que l'on trouve ailleurs comme phénomène, comme fait monarchique?
Je ne pense pas, parce que la monarchie occidentale, autant que je sache, c'est constitué ses cadres administratifs de façon assez tardive. Tandis que, malgré tout, les relations de parenté ont toujours joué un grand rôle dans la conception monarchique occidentale, si je ne me trompe.
Je pense.
Oui,
Tandis que dans le système chinois, il s'agit, je crois qu'il faudrait le caractériser au moins brièvement, cet État centralisé chinois. C'est un État qui est d'abord, dont l'instrument est une administration révocable et payé par l'État. C'est-à-dire que les serviteurs de l'État sont choisis indépendamment de la naissance, indépendamment de toute considération, théoriquement, n'est-ce pas, uniquement en fonction de ses aptitudes à administrer et de sa connaissance de l'écriture en particulier et des textes. Et d'autre part, c'est un État qui s'appuie sur une classe paysanne au départ, une classe paysanne qui est à la fois productrice et combattante. C'est ce double aspect de la paysannerie chinoise qui est fondamental dans l'État originel.
Oh,